Masechet Yoma Daf Samech Zayin, on commence Bezrat Hashem Daf Samech Vav Amud Bet. En bas, à la Mishnah, Miyakire Yerushalayim Ayum Elavin Oto. Ici, le Daf va traiter les détails de la manière dont on envoyait le Sayir Lazazel. Donc, il y avait quelqu'un qui prenait le bouc pour le jeter dans le désert. Et ici, notre Mishnah nous dit qu'il était accompagné par des gens qui venaient de Yerushalayim et qui sortaient l'accompagner en chemin. Alors, la Mishnah nous dit comme ça, Miyakire Yerushalayim, Rashi explique, Mechashuvei Yerushalayim, les hommes importants de Yerushalayim, Ayum Elavinoto, Atsuka Rishona. Donc, il y avait des hommes importants de la ville de Yerushalayim qui allaient l'accompagner, celui qui sortait le Sayir Lazazel. Ils allaient l'accompagner jusqu'à la première Souka. Il y avait une première cabane, et ils continuaient ensuite sans eux. Eux l'accompagnaient jusque là-bas. Esar Sukkot Mirushalayim Vad Souk. Il y avait 10 cabanes depuis Yerushalayim jusqu'au Souk, à l'endroit là où ils jetaient le bouc. Tishim Ris. Et c'était une distance de 90 Ris. Shiva Omerta Lechol Mil. Dans chaque mille, il y a 7,5 Ris. Et donc ça faisait en tout, pour 90 iris, ça faisait en tout 12 000. Chaque mille, c'est à peu près 1 kilomètre. Donc il y avait 12 kilomètres à marcher depuis Yerushalayim jusqu'à l'endroit où ils jetaient le Sahir. À l'école Souka Besouka Omrimlo, dans chaque cabane, les gens qui restaient là-bas dans la cabane, parce que Rashi explique, il y avait des gens qui allaient habiter là-bas avant Kippour, et ils allaient dormir là-bas avant Kippour. Et lorsque le Meshaleach, le monsieur qui amenait le Seir Lazazel, il arrivait là-bas, il rencontrait ces gens-là. Donc les gens de Yerushalayim l'accompagnaient jusqu'à la première cabane, là-bas il retrouvait des gens qui étaient là-bas depuis l'entrée de Kippour, parce que on n'avait pas le droit de marcher à Kippour plus que 2000 amot, sans Eruv Troumin. Donc on ne pouvait marcher que jusqu'à la première cabane, parce qu'entre une cabane et une autre, il y avait 2000 amot. 1 mille, c'est 2000 amot, 1 kilomètre, c'est le maximum qu'on puisse marcher. Et donc lui, celui qui devait jeter le bouc, il marchait plus que ça, il n'avait pas le choix. Mais les gens qui étaient là-bas, ils attendaient pour le recevoir. Et donc ils passaient là-bas Kippour de manière à ce qu'ils puissent être là-bas sans marcher plus que 2000 amot. Et donc il y avait donc dans ce trajet-là, il y avait 10 cabanes. Et ça faisait en tout 12 000. Et à chaque fois, les gens, quand ils rentraient dans une cabane, ils les rencontraient là-bas. Sauf les deux derniers milles, où ils ne pouvaient être accompagnés par les gens de la dernière souka, de la dernière cabane, que 1 mille. Et ils devaient marcher encore 1 mille tout seuls pour arriver jusqu'à l'endroit où ils jetaient le bouc. À l'école souka ve souka omrin lo, dans chaque cabane, lui disaient les gens qui s'y trouvaient, les gens qui étaient là-bas, qui l'attendaient, ils disaient à cet homme, à ce monsieur qui ramenait le bouc, ils lui disaient, Aremazon varemaim, voici de la nourriture, voici de l'eau. La Gemara avait expliqué que c'est pour ne pas qu'il ressente trop la faim et la soif. Ou Melavi notam Yisuka l'Esuka, et on l'accompagnait d'une cabane à une autre. Chutz Miacharon Chebehen, sauf la dernière cabane, Cheno Magia Imo Latouk, les gens qui étaient dans la dernière cabane, ils accompagnaient 1 mille, mais ils ne pouvaient pas continuer jusqu'au Tzouk, jusqu'à l'endroit où ils jetaient le bouc. Et là, Omed Merachok Veroet Maasav, il se tenait de loin, il regardait ce qu'il faisait. Meayaose, que faisait-il? Cholek lachon shel zehorit. Il avait un fil de laine rouge. Il le partageait en deux. Chetio kashur basela, chetio kashur ben shne karnav. Moitié était attaché sur le rocher, moitié entre les cornes du bouc. Ou drafola achorav. Il le repoussait en arrière. Veu mit galgel veyored. Et le bouc se roulait en arrière. Il descendait comme ça. Veloya magia lechati ahar, il n'arrivait même pas jusqu'à la moitié de la montagne, Achenasa Evarim Evarim, qu'il était déjà complètement déchiré en membres. Bavia Shavlo, Tachatuka Chona. Le monsieur revenait jusqu'à la dernière cabane, Achetercha, jusqu'à ce que tombe la nuit. Donc il marchait malgré qu'il marchait plus que ce qu'il avait le droit de marcher. Il marchait 2 000 alors qu'il n'a le droit de marcher qu'un seul 1 000. Ici, on lui permettait exceptionnellement parce que d'abord pour pas qu'il reste seul, et aussi parce qu'il était fatigué et faible, donc il pouvait pas se retrouver n'importe où. Il devait revenir à la cabane, c'est obligatoire, donc les Chachamim lui ont permis de revenir jusque là-bas. Ou mes matayim et tamei begadim. On sait que celui qui jette le bouc, il devient tamé, lui et ses vêtements. À partir de quand, de quelle étape? Mishiatachut lechomat Yerushalayim. D'après Tanakama, dès qu'il est sorti de la muraille de Yerushalayim, Rabbi Shimon Omer Mishat dechiatolatuk. Selon Rabbi Shimon, depuis le moment où il a poussé dans le ravin. Tanu Rabbanan, Eser Sukkot, Ushne Masar Milin Ayu, d'ivrei Rabbi Meir. Il y avait 10 cabanes et 12 000 selon Rabbi Meir, c'est ce que disait notre Mishnah déjà. On a fait déjà le calcul dans notre Mishnah. Rabbi Uda Omer, Techa Sukkot, Vasara Milin. Rabbi Uda, il dit non. Il y avait 9 cabanes et 10 000 Milin, il y avait. Donc il y avait 9 cabanes. Et avec ça, on pouvait l'accompagner jusqu'au ravin. Les gens d'Yerushalayim l'accompagnent jusqu'à la première cabane, ça fait 1 000. Et de même jusqu'au 9e mille, la 9e cabane. Et de la 9e cabane, on sortait encore 1 000 de plus pour l'accompagner jusqu'à l'endroit où il jetait le bouc. Rabbi Yose Omer, Chamesh Sukkot Vassara Milinayu. Rabbi Yose dit, il y avait 5 cabanes pour 10 000. Vekulan Aliede Eruv. Ça se faisait avec un Eruv Troumin. Les gens pouvaient marcher plus que 2 000 amot, parce que plus que 1 000 à chaque fois, parce qu'il laissait un Eruv, c'est-à-dire, de Yerushalayim à la première cabane, il y avait 2 000 lignes. Et donc, au bout 1 000, on laissait un roof troumin, on laissait un pain. Et on pouvait comme ça marcher jusqu'à la première cabane, 2 000 lignes. De même, de la première cabane à la deuxième, il y avait encore 2 000 lignes et ainsi de suite. Donc, il y avait finalement 10 000 lignes en tout, mais il suffisait de 5 soukot pour que on puisse l'accompagner d'un endroit à un autre. Donc, il était toujours accompagné. Amarabi aussi. Rabbi aussi qui dit comme ça qu'il y avait 5 cabanes pour 10 milines et qu'on l'accompagnait avec un système de Eruv Troumin. Sahli Elazar Bni, mon fils Elazar m'a dit, s'est amusé de mes paroles et il m'a dit, tu sais, il m'a aidé Eruv, si on utilise un système de Eruv, c'est pas la peine de dire 5 cabanes, on peut s'en sortir avec moins que ça même. Yecholan il a assa tafluchte soukot vassara milin. Je peux me débrouiller à faire 2 cabanes pour 10 milines. Alors qu'on a le droit de marcher pendant Shabbat que 1 seul mille, avec un Eruv Troumin, on peut en marcher 2. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Les gens de Yerushalayim laissaient un Eruv Troumin, ils laissaient un pain à 1 000, ils pouvaient marcher 2 000 lignes. Là-bas, on rencontrait les gens de la première cabane qui avaient laissé un Eruv Troumin, un pain, en direction de Yerushalayim 1 000, et donc ils marchaient 2 000 lignes, ils attendaient là-bas, le Meshaleach, le monsieur qui envoyait le bouc. Et donc, il rencontrait les gens de Yerushalayim. C'est-à-dire que, entre Yerushalayim et la première cabane, il avait 4 000 lignes. 2 000 lignes marchaient les gens de Yerushalayim, et à leur rencontre venaient les gens de la première cabane, qui marchaient aussi 2 000 lignes, ça fait en tout 4 000 lignes. Ensuite, de la première cabane à la deuxième cabane, il y avait encore une fois 4 000 lignes. Il y avait d'autres personnes dans la première cabane qui laissaient leur Eruv Troumin, leur pain, ils le laissaient en direction du ravin, donc à 1 000, et ils pouvaient marcher 2 000 lignes comme ça. Et là-bas, à nouveau, ils rencontraient les gens de la deuxième cabane qui venaient à leur rencontre aussi avec un Eruv Troumin en faisant 2 000 lignes dans leur direction. Donc de cette manière-là, on a fait encore 4 000 lignes. On a vu 4 000 lignes de Yerushalayim à la première cabane, 4 000 lignes de la première cabane à la deuxième, et encore 2 000 lignes de la deuxième jusqu'à l'endroit où on jetait le bouc. Et avec un Eruv Troumin, certaines personnes qui étaient dans la deuxième cabane pouvaient mettre le Eruv en direction du ravin. Et donc, ils marchaient comme ça 2 000 lignes. Et avec ça, on a couvert tout le trajet. Keman Azda Detania, comme qui va la Braïta qui dit, Chutz Meacharon Shebehen, qu'il était accompagné tout le chemin, tout le temps, sauf à la fin, Shelo Egia Imolatsuk, et la Omed Merachok, Veroet Maasab. Le dernier qui accompagnait le Meshaleach, il n'arrivait pas jusqu'à l'endroit où on jetait le bouc, mais il se tenait de loin, il voyait ce qu'il faisait. Keman ki Rabbi Meir, ça va comme Rabbi Meir qui disait qu'il y avait pour 12 000 lignes 10 cabanes, et donc on a couvert avec ça 11 000 lignes, c'est-à-dire 1 000 jusqu'aux 10 cabanes, jusqu'à chaque cabane, et encore 1 000 après la dernière cabane. Et donc, il se retrouvait, le Meshaleach, il se retrouvait à marcher 1 000 tout seul. Le dernier 1 000 tout seul, ça va comme Rabbi Meir. Alkol shukavesukam rimlo, aremazan varemaim. Dans chaque cabane, on lui disait, voici de la nourriture, voici de l'eau à boire. Tana meolam leutzach adam lekar. Jamais, dit la Braïta, un homme en a eu besoin. Ela, sheno domé mishesh lopat besalo, le mishen lopat besalo. Simplement, la raison pour laquelle on lui servait on lui montrait à manger et à boire, c'est parce que ne ressemble pas quelqu'un qui a du pain dans son panier à quelqu'un qui ne peut pas manger et qui n'en a pas du pain dans son panier. Celui qui a du pain dans son panier, dans son sachet, il est plus tranquille, il a moins faim, il souffre moins. Et donc, on faisait ça justement pour qu'il soit tranquille, qu'il ne s'inquiète pas, et avec ça, il puisse supporter plus facilement le jeûne. Le Yerushalmi raconte l'histoire d'un homme dont la fille jeûnait à Kippour, et elle lui disait « Papa, j'ai soif, papa, j'ai soif ». Il lui disait à chaque fois « Attends, 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 attends. Bientôt va sortir le jeûne, bientôt tu pourras boire, tu ne peux pas encore boire, et elle est morte. » Et le Yerushalmi dit, alors qu'il aurait dû lui dire « Si tu veux boire vraiment, tu peux boire. » Lui laisser comprendre, lui enlever l'angoisse, lui laisser comprendre qu'elle peut boire, ça aurait été suffisant pour apaiser sa soif et pour la tranquilliser. Et donc avec ça, il lui aurait sauvé la vie, même si elle n'avait pas bu. Évidemment, elle aurait pu boire et elle aurait dû boire si c'est ça ce qui devait la sauver. Mais lui, il n'a pas eu l'intelligence de comprendre que des fois, il est suffisant de lui dire que si vraiment elle veut, il y a ici de quoi boire, elle peut boire. Donc ici, ça c'était le système qu'on faisait pour faciliter au méchaléach, au monsieur qui amenait le bouc, ce long trajet qu'il devait faire. S'il avait 12 ou 10 milines à faire, ça fait quand même 10 kilomètres ou 12 kilomètres, c'est long, c'est quelques heures en jeûne, et il faisait sûrement chaud. Donc c'était difficile, et donc il était pieds nus aussi peut-être. Normalement, il devait être pieds nus, donc ou pratiquement, ça veut dire qu'il n'avait pas de chaussures. Et donc c'était difficile, il fallait lui montrer qu'il peut manger de manière à ce qu'il ne soit pas en danger. Mais à Yahosé, qu'est-ce qu'il faisait quand il arrivait là-bas? Cholek la chanchal zéorit, on a dit qu'il partageait un fil de laine rouge. Demande à Gemara pourquoi il partageait en deux. Venik terekou le besela, il avait qu'à l'attacher complètement tout entier sur le rocher. Répond la Gemara. Kevin de mitzvah besaïr, puisque la mitzvah elle est de jeter le bouc, on craint que ce qui va se passer, c'est que lui d'abord il attache la laine sur le rocher. Dilma kadim ou malbin, et dès qu'il va tâcher la laine, ça va blanchir. Omiyat va dater, il sera tranquille. Il ne ressentira plus le besoin de jeter le bouc. Il ne sera pas pressé de jeter le bouc. Il va oublier de le faire. Il va oublier de s'en occuper parce que ça y est, ça a blanchi déjà. Là, c'est la grande joie. Et donc, qu'est-ce qu'on lui dit de faire? On lui dit de faire moitié sur le rocher et moitié sur les cornes. Tant qu'il n'a pas fait la deuxième moitié sur les cornes, ça ne va pas blanchir. Une fois qu'il aura fait la deuxième moitié sur les cornes, alors même si ça blanchit, puisqu'il a le bouc entre ses mains, il ne va pas oublier de le jeter. Demande à Gemara Venik Terekou le Ben Karnav. Et bien si c'est comme ça, il n'avait qu'à faire tout entier la laine que sur les cornes du bouc, pourquoi faire sur le rocher? Répond la Gemara Zimlin de Gamishle le Recher. Des fois, le bouc, quand il tombe, il plie sa tête, il baisse sa tête, Vela va dater, et le monsieur qui l'a jeté, il ne peut pas voir la laine. Le fil, il ne peut pas voir si ça blanchit ou pas. Et c'est pour ça qu'il doit laisser une partie sur le rocher, de manière à ce qu'il puisse voir sur le rocher si ça blanchit ou pas. Tanou Rabanan, Barishona, Ayu Koshrin, Hashem Shel Zeorit. Au début, on attachait ce fil rouge à l'Petach Haoulam Ibachut, sur l'entrée du Oulam, dans le Bet Amikdash, à l'extérieur du Oulam. Et donc, tout le monde le voyait. Ilbin Ayu Smechin, Lo Ilbin Ayu Atsevin, Umid Baishin. S'il blanchissait, ils étaient contents. S'ils ne blanchissaient pas, ils étaient tristes et ils avaient honte. Itkinu, les chachamim ont institué, shiyu koshrin al petach ulam ibifnim, d'attacher le fil rouge à l'entrée du ulam de l'intérieur, que les gens ne le voient pas. Ve'adayin ayu metitin veroin, et encore les gens, ils se rentraient comme ça la tête pour regarder ce qui se passait avec le fil, et ils voyaient ilbin ayu smechin, si ça blanchissait, ils étaient contents, lo ilbin ayu atsevin, et sinon ils étaient tristes. Itkinu, ici, c'est pas écrit que Mitbaishin. Ils n'avaient pas honte parce que c'était caché, c'était à l'intérieur. Mais au moins, ils étaient tristes. Itkinu sheyu koshrinoto. Les chachamim, pour éviter ces problèmes, ils ont institué de l'attacher, chetio basela ve chetio ben karnav. Moitié sur le rocher, moitié sur les cornes du bouc. Amar Rabbi Nachum bar Papa. Mishum Rabbi Elazar akapar. Barishona. Ayu koshrin ashan shel zeorit. Au début, on attachait le fil rouge al petach ulam ibifnim, à l'entrée du ulam de l'intérieur. Kevan shigias al amidbar, dès que le bouc arrivait dans le désert, ayam albin, il blanchissait. Veyadu shenaset mitzvato, il savait que la mitzvah était faite. Shenemar, comme dit le pasuk, imyu chataechem kashanim, si vos verot seront rouges comme les chanim, c'est un insecte qui a un sang très rouge, cacher les galbines où ça va blanchir comme de la neige. Donc, les avérotes qui sont pardonnées sont comparées à un rouge qui a blanchi. Loya magia le machatitar. Avant même que le bouc n'arrive à la moitié de la montagne, il était déjà complètement déchiré, décomposé. Ibaya leu. On s'est posé la question. Otan evarim. Men veana. Est-ce que les membres du bouc, on peut en profiter ou pas? Men veana. Qu'est-ce qu'il en est d'en profiter? Est-ce qu'on peut en profiter ou pas? Rav Shmuel machloket. Chadamar mutarin ve chadamar asurin. Donc, c'est une machloket selon entre Rav et Shmuel si c'est permis ou interdit. Man veamar mutarin. Celui qui permet, on tourne la page. D'où il sait permettre les membres du bouc? Dirtiv, car il est écrit Bamidbar. La Torah nous dit un mot en trop, il enverra le bouc dans le désert. C'est un mot en trop, on sait déjà qu'il s'agit du désert. Pourquoi la Torah nous précise désert? Pour nous dire que c'est comme le désert. Le désert, il est esker, il est abandonné à tout le monde peut en faire ce qu'il veut, peut en profiter. Eh bien, le bouc aussi, on peut en profiter comme le désert. Ouman de Amar Asourine, celui qui interdit, dirtiv, Gezera. C'est écrit à propos de ce désert-là, l'endroit où il faut le jeter, c'est écrit Gezera. Gezera, on comprend, c'est écrit dans la Torah Eretz Gezera. Eretz Gezera qui veut dire une terre déchirée. Et on comprend du mot Gezera, c'est un décret, sous-entendu c'est interdit, tu ne peux pas en profiter. Uman Demar Asurin, celui qui interdit Haï Midbar Mai Avidle, que fait-il du mot Midbar? Qu'est-ce qu'il apprend de là? Miba il est l'ir des Tanya. Il en a besoin pour la Drasha qui dit dans une Braïta. Hamidvara, Hamidvara, Bamidvara. Trois fois s'écrit dans le désert, dans la Torah à propos du Saïr la Azazel. Les rabots pour inclure Nov et Givon, Shiloh ou Betolamim. C'est-à-dire, partout où il y avait le Mizbeach ou le Mishkan ou le Bet HaMikdash, quand il s'était dans la ville de Nov ou de Givon, il y avait là-bas le Mizbeach, Shiloh, il y avait un Mishkan, Betolamim, c'est le Bet HaMikdash. Il y a toujours cette mitzvah-là de jeter le bouc. C'est pour ça que la Torah nous répète trois fois dans le désert. Veidar, Haïk Zera Mayavidle, celui qui permet, qu'est-ce qu'il apprend du mot Zera? Mibayl Elichdetania. Il en a besoin pour la Drasha qui dit, dans une Braïta, Gzera, En Gzera et la Chatoucha. Quand la Torah nous dit Gzera, elle veut dire par là couper, déchirer. C'est un ravin qui est très raide. Rachidi Chatoucha, Touk Chatouch Bizkifa. Velam Meshupa Kolkar. C'est-à-dire, la montagne là-bas, elle descend très raide. Comme si c'était coupé. Davar acher, en gzera el davar mit gezer viored. Ou bien, deuxième explication, ça se rapporte sur le bouc lui-même, qu'il est mit gezer viored, il se déchire complètement en morceaux quand il tombe là-bas. Davar acher gzera, troisième explication, que veut dire le mot gzera? Shema tomar maset tohu. Peut-être que tu vas dire, ça rime à quoi? C'est rien, c'est Dieu. Ça n'a pas de sens comme kapara. Quel kapara y a-t-il en jetant un bouc, en le déchirant comme ça? C'est une action de vide. Talmud Lomar Ani Hashem. La Torah dit non, c'est une gzera, je suis Hashem. Ani Hashem gzartiv, c'est moi Hashem qui l'ai décrété. Ven lecha reshut l'arer ben. Même si tu ne comprends pas, tu n'as pas le droit de te demander à quoi ça rime, pourquoi c'est, ça n'a pas de sens. Amar Rava, Mistabra Keman Damar Mutarin. Rava dit, il semble la halakha comme celui qui dit qu'on a le droit de profiter des membres du bouc. L'Amra Torah Shaleach le Takala. Car quand la Torah nous a dit de l'envoyer, elle ne peut pas dire d'envoyer un bouc alors que quelqu'un risque de le prendre et d'en profiter sans savoir d'où il vient. Il ne va pas croire que c'est celui-là. Et donc, finalement, les gens, c'est un obstacle. Ils vont se tromper et profiter de quelque chose d'interdite. Donc, certainement, la Torah ne l'a pas interdit. Tanoura Banan, Azazel. Que veut dire le mot Azazel? Shihe Az ve Kaché. Le mot Azazel se partage en deux. Az et El. Az veut dire fort et El veut dire dur. Donc ça fait allusion à un endroit qui est fort et dur. Yachol Baishuv. Peut-être que c'est dans un endroit habité. Talmud Lomar Bamidbar. La Torah nous dit non, c'est dans le désert. Uminain Shebatsuk. D'où je sais que c'est un ravin. Talmud Lomar Gzera. Gzera qui est un endroit déchiré, comme on a dit. Tania Idar, Azazel, caché chez Beharim. Azazel veut dire, selon cette deuxième braïta, caché chez Beharim. Le plus dur des montagnes, pas le plus dur, mais c'est parmi les montagnes, c'est caché chez Beharim. Oui, c'est le plus dur des montagnes. La plus dure des montagnes. Le Renou Omer veut être Elea Aretz Lakar. Le mot El veut dire l'effort. Donc c'est le dur. Tané de Rabbi Ishmael, Azazel, encore une explication, chez Mechaper al-Maase, ou Zavazé. Ce sont des malachim qui ont fauté, ils ont été jetés du ciel à la terre, du temps avant de Noah, d'avant Noah. Et ils ont fauté avec les femmes. Et donc ici, le mot Azazel fait allusion au nom de ces anges-là, pour nous dire que le Saïr l'Azazel, il pardonne ces fautes-là. Il pardonne les fautes de Gilui Arayot. Tanu Rabbanan, et mishpatai ta'asuzi la Torah, mes lois vous les ferez. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça fait allusion? Dvarim, ce sont des choses, des halachot de la Torah, shil malen ichtavu, dinu shikatvu. Que même si elles n'étaient pas écrites dans la Torah, dinu shikatvu. On s'attend, la logique serait de les écrire. Ve'elouen, de quel mitzvot il s'agit? Avodat kochavim, ve'gilu yarayot, shvichud damim. Donc, avodat zara, gilu yarayot, les relations interdites, shvichud damim, le meurtre, ve'gezel, le vol, ou birkat Hashem. Et la bénédiction d'Hachem. Ça veut dire le contraire en fait, on ne veut pas dire le contraire. Donc, il interdit de dire sur Hachem le contraire d'une bracha. Tout ça sont des mitzvot qui sont logiques, qui se comprennent. Et chukotai tishmoru, mais mechukotai, mechukot, ce sont des lois qui ne sont pas comprises. Vous devez quand même les garder, dit la Torah. Ce sont dvarim shasatan meshivalen. Ce sont des choses que le Yetzer Hara, il vient embêter les gens en leur disant, mais à quoi ça sert? Ve'elouen, et les voici, achilat chazir, manger le porc, c'est très bon. Et pourtant, la Torah l'interdit. Ou le vishacha atnez, porter lin et laine, des vêtements de mélange de lin et laine, alors que le lin est permis, la laine est permise, pourquoi le mélange est interdit, on comprend pas. Vechalitat yevama, yevama c'est la veuve qui a perdu son mari, qui n'a pas laissé d'enfant, elle doit se marier avec le frère de son mari, ou bien lui enlever la chaussure. On comprend pas à quoi ça sert de lui enlever la chaussure. Et si elle lui enlève la chaussure, et qu'elle fait ce qui est écrit dans la mitzvah là-bas, elle pourra ensuite se marier avec n'importe qui. Sinon, elle ne peut pas se marier, elle doit se marier qu'avec son beau-frère, donc le frère de son mari. Et à nouveau, ça fait partie des mitzvot qui s'appellent des chukim. Ce sont des lois qui ne sont pas comprises. Vetarat metzora, et la purification du metzora aussi, on la comprend pas. Vesayir amishtaleach, et à nouveau le seir l'azazel. Seir l'azazel aussi, c'est une chose qu'on comprend pas en quoi ça fait une kapara de jeter un bouc. Veshema tomar maset tohu hem. Peut-être tu vas dire tout ça sont des actions de vide, de rien. Talmud Lomar Ani Hashem. C'est moi Hashem. Ani Hashem Chekaktiv. C'est moi Hashem qui ai gravé ces mitzvot-là. Ben lecha reshut l'arer ben. Tu n'as pas le droit de te poser des questions dessus. Et matay metame v'gadim. À partir de quand il devient tamé celui qui a renvoyé le bouc, qui a jeté le bouc? Tanu Rabbanan. Ameshaleach metame v'gadim. Celui qui a jeté le bouc, c'est lui qui devient tamé lui et ses vêtements. Ve'en ha-shaleach et ha-meshaleach metame begadim. Mais celui qui l'a accompagné, donc le shaleach et ha-meshaleach qui a envoyé celui qui jette le bouc, metame begadim, lui, en ha-shaleach, lui ne devient pas tamé. En ha-shaleach metame begadim. Yachol mishat tachus lechomata azara. Peut-être qu'il sera entamé dès qu'il est sorti de la muraille de la azara du Batamikdash. Talmud Lomar dit la Torah Meshaleach. Non, celui qui a envoyé, donc il faut qu'il ait envoyé. Pas dès qu'il est sorti. Iyam Shaleach, si tu me dis le mot Meshaleach, Echolat Yagel et tout, peut-être que c'est que quand il a jeté vraiment dans le ravin qu'il est tamé. Talmud Lomar, Ve'am Shaleach. Du mot Ve'am Shaleach, j'entends, même avant qu'il termine, dès qu'il l'a déjà envoyé, ça y est. Vers le désert, ça y est, il devient tamé. Aketzad, Meshiatach Husechomat Yerushalayim, dit Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, dès qu'il est sorti de la muraille de Yerushalayim, il est déjà tamé. Rabbi Yose Omer, Azazel Vechibes. Rabbi Yose, il dit non. C'est quand il arrive à Azazel qu'il devient tamé, il doit laver ses vêtements. Ad Shegi Alatsuk. Jusqu'à ce qu'il arrive au Tsuk où il jette le bouc, jusque là-bas, il n'est pas encore tamé. Rabbi Shimon Omer, Verm Shaleach, et Asahir, l'Azazel, Yichabes Vegadam. Rabbi Shimon dit, c'est pas encore suffisant de dire il est arrivé à l'endroit où il doit jeter le bouc. C'est qu'une fois qu'il a envoyé, que ses vêtements sont tmeim et qu'on lui dit de les laver. Donc, les laver, ça veut dire les tremper au mikvé. Donc, zorko bebat roche ou metame begadim. Il le jette comme ça en arrière. Et quand il le pousse, c'est là où ça s'appelle qu'il a envoyé. C'est à partir de ce moment-là qu'il devient tamé, lui et ses vêtements. Mishnah suivante. On a terminé avec le seir l'azazel, ça y est. La capara est faite, le fil a blanchi, Baruch Hashem. On revient maintenant au Saïr l'Hashem qui nous attend au Beth Amikdash avec le taureau aussi du Kohen Gadol. Balo etel par ve Saïr en Israfin. Le Kohen Gadol, lui, il revient s'occuper du taureau et du Saïr Lachem, du bouc à Nisrafin qu'il faut les envoyer en dehors de la ville pour les brûler là-bas. Kra'an, il déchire leur ventre pour sortir les graisses. Veoti et Temuren, il sort les parties du Misbéach. Il sort les parties, les graisses qui vont au Misbéach. Netanan et Magis, il les met sur un plateau. Viktiren al-Gavé Misbéach, il est brûlé au Misbéach. Tla'an be Miklaot, il prenait ensuite le Torah avec le bouc et il est tressé un avec l'autre, un sur l'autre. Il est tressé, comme des nattes. Veoti et Batasrefa, et il les sortait pour qu'on les brûle en dehors de la ville. Au même matin, Metamin Begadim, à partir de quand ceux qui s'occupent de porter le taureau et le bouc pour les brûler, ils sont tamés eux aussi d'ailleurs, comme on a vu en haut pour le Saïr et l'Azazel. À partir de quand ils sont tmeïm eux et leurs vêtements, Michel Tuchot Techomata Azara, à nouveau Marloquette, à partir du moment où ils sont sortis de la muraille de la Azara, Rabbi Shimon Emer Mishati Taur Beruban. Selon Rabbi Shimon, c'est à partir du moment où le feu a brûlé la majorité du taureau et du bouc. Demande à Gemara Viktiran Salkadatar. On a dit, il mettait sur un plateau et il brûlait les graisses. Est-ce que vraiment il est brûlé? C'est pas du tout le moment. Il faudra le faire bien plus tard. Il y a encore beaucoup de choses à faire, le Kohen Gadol, avant de brûler les graisses. Et la Emalak Tiran al-Gaba Misbeach. Il les met sur les plateaux pour les brûler ensuite sur le Misbeach. Pour l'instant, il ne fait que les préparer et il les met de côté et ensuite il va revenir pour les brûler au Misbeach. On va s'arrêter là pour le moment.